Canal Académie. Petite histoire de science. Avec Étienne Gis. Le podcast de l'Académie des sciences.
Je suis face à Michel Brouet. Michel, tu es mathématicien.
Certes.
Mais tu t'es beaucoup impliqué dans des questions de politique scientifique, et politique d'ailleurs pas forcément scientifique.
Oui, plus de politique tout court, de droits de l'homme que de politique scientifique.
En forme de préambule, commençons par évoquer l'affaire Audin. Nous sommes en 1957, en pleine guerre d'Algérie.
Maurice Audin, c'était un jeune assistant, membre du Parti communiste algérien. Il avait une vingtaine d'années. Il faisait sa thèse avec De Pocel.
René Pocel, né en 1905 et mort en 1974, est un mathématicien, l'un des fondateurs du groupe Bourbaki en 1934. Il travailla par la suite sur la reconnaissance optique de caractères en informatique.
Et sa thèse était en cours. Il est venu voir Schwartz à Paris.
Laurent Schwartz, né en 1915 et mort en 2002. Il obtient la médaille Fields en 1950 pour ses travaux sur la théorie des distributions. Professeur adoré de tous ses étudiants à l'École Polytechnique de 1959 à 1980, membre de l'Académie des sciences en 1975, membre du groupe Bourbaki de 1943 à 1965.
Qui lui a repéré même un certain nombre d'erreurs dans sa thèse, mais il trouvait que ça valait le coup, qu'il fallait qu'il continue, etc. Rentré à Alger, et il a été arrêté par les paras en juin 57, et quelques jours après, il a disparu. Il a probablement été tué, il est mort le 21 juin. On a raconté à la veuve de Maurice Audin n'importe quoi, qu'il avait fait une tentative d'évasion, qu'il s'était évadé, qu'on ne le trouvait pas, etc. Ça a duré des décennies. Il n'y a eu qu'il y a quelques années, lorsque Macron, président de la République, a reconnu qu'il avait été tué par l'armée. Néanmoins, notez qu'on ne sait toujours pas comment est mort Audin. À l'époque sur laquelle je vais revenir, Vidal Naquet avait fait une enquête. On était à peu près persuadé qu'on connaissait le nom de son assassin, qu'il l'aurait étranglé pendant une séance de torture. Il semble que ce ne soit pas le cas, et on ne sait toujours pas s'il est mort pendant une séance de torture, s'il n'a pas tenu le choc, si le cœur a lâché, ou si on l'a descendu sur ordre, ce qui n'est pas du tout exclu. Il était un jeune militant du Parti communiste. Une partie de l'armée algérienne venait du Vietnam, où les communistes étaient les ennemis, au sens plein du terme. C'est pas du tout exclu, mais on n'en sait rien, et on ne sait pas où est sa dépouille. Donc il reste beaucoup de mystères, et comme la plupart des témoins, voire des assassins, sont morts, ce depuis longtemps, il n'est pas sûr qu'on sache le détail. Laurent Schwartz, en communion avec René de Pocel. René de Pocel, lui, n'était pas spécialement engagé à gauche, mais il était complètement outré de la disparition d'Audin. Et de Pocel a proposé à Schwartz de faire une soutenance in absentia à la Sorbonne. D'une voix de stentor, de Pocel a demandé à la Sorbonne si Maurice Audin était là, et le silence a répondu, et donc de Pocel a raconté les résultats de la thèse d'Audin. Donc Schwartz était là, et ensuite Schwartz est devenu membre puis président du comité Audin qui s'est créé à la suite de cette soutenance de thèse et de la disparition têtue de Maurice Audin. Comité Audin qui avait cette particularité par rapport à ce dont on va parler un peu plus tard, qui n'était pas constitué de mathématiciens. Les mathématiciens se sont très largement engagés, en particulier dans cette soutenance à la Sorbonne. Schwartz signale l'importance de la communauté mathématique dans la mobilisation qui a suivi. Mais le comité Audin a, pendant des années, travaillé, réclamé la vérité sur la disparition d'Audin et a consacré beaucoup de ses activités à la lutte contre la torture en Algérie, en particulier avec l'action notable de Pierre Vidal-Naquet. La première fois que j'ai entendu parler de Schwartz et de Cartan, enfin non, Schwartz, je le connaissais depuis longtemps, je lisais à 14-15 ans, j'ai commencé à lire l'Observateur, le Nouvel Observateur, je ne sais pas comment ça s'appelait à l'époque, qui racontait des histoires de torture, l'Express aussi, sous Savant, dirigé par Jean-Jacques Savant-Schreiber. Et je lisais Schwartz avec beaucoup d'admiration, parce que je trouvais extraordinaire qu'on puisse être un grand mathématicien, c'est ce qu'on m'en disait, et avoir ce courage et cet engagement. Donc oui, bien sûr, je le connaissais. Mais j'ai entendu parler de Schwartz et Cartan parce que pendant la fameuse nuit des émeutes du 10 mai ou du 11 mai, je crois, 1968, Schwartz et Cartan, en pleine nuit, ont fait un communiqué disant que si la police continuait à matraquer les étudiants, ils démissionnaient de l'université. Ça m'avait frappé à l'époque. Je trouvais que, mon Dieu, ils étaient...
Henri Cartan, né en 1904 et mort en 2008, est un mathématicien, un fils d'un autre mathématicien, Élie Cartan. Il est habituellement considéré comme l'un des mathématiciens et français les plus influents de son époque. Connu pour ses travaux sur les fonctions de plusieurs variables complexes, la topologie, l'algèbre homologique, médaille d'or du CNRS en 1976, élu à l'Académie des sciences en 1974, membre fondateur du groupe Bourbaki en 1935.
Cartan, le Cartan dont je parle et que j'ai connu, et j'en suis honoré et heureux, s'appelait Henri Cartan. Henri Cartan était le fils de Élie Cartan, lequel Élie Cartan était aussi un très grand mathématicien, mais du début du siècle, alors que Cartan, lui, a été un homme très important, je veux dire, à dominer, c'est pas des termes qu'on a en mathématiques, mais a été très important dans les mathématiques depuis 1935, disons, jusqu'à la fin. Il est mort très âgé, hein, il est mort, je crois, il avait 104 ans, quelque chose comme ça. Voilà, il a dirigé le département de mathématiques de l'école normale, il a caché des passeports de juifs, des papiers de juifs dans les bouquins de la bibliothèque de la rue d'Ulm. Et il est arrivé, quand je m'en occupais de la rue d'Ulm, qu'on retrouve une fois des papiers bizarres que quelqu'un m'a rapporté en disant « j'ai trouvé ça dans le bouquin, je ne sais pas ce que c'est ». Et j'étais très ému de ça, moi je savais ce que c'était.
Cette histoire Maurice Audin fait beaucoup de bruit. Est-ce que ça se calme un peu après? On l'oublie un peu ou...
Je ne sais pas si on l'a oublié. Moi, je ne l'ai pas oublié, par exemple, parce que Schwartz en parlait souvent et le comité Audin s'est transformé en une espèce de comité Audin contre la torture en Algérie. Donc, comme l'histoire de la torture en Algérie a duré longtemps, il y a eu ensuite l'entreprise Massu et ses paras, etc. Donc, non, enfin, pour moi en tout cas, je ne sais pas si on l'a oublié, mais moi, je ne l'ai pas oublié.
Et donc c'est sur cette lancée que le comité des mathématiciens en 1974, différent, mais un peu dans la même mouvance.
Disons, c'est sur le principe. Ça, Schwartz m'a expliqué, quand on a été saisi du cas de deux mathématiciens, je devrais dire soviétiques et pas russes, hein, parce que Chikhanovitch était russe, mais Pliouch était ukrainien, et aujourd'hui on sait ce que ça veut dire être ukrainien. Quand on a été saisi de ces deux cas-là, Schwartz m'a expliqué, tu vois, on va s'occuper de deux cas précis, de deux hommes, mais à travers eux, mais en restant sur ces cas-là, on luttera pour tous les autres. C'est ce que nous avons fait dans le comité Audin. En s'occupant d'Audin, d'un nom donné, qui probablement malheureusement était mort, on a réussi à mettre l'accent sur la torture en Algérie. Et on a tenu cette ligne-là. Moi, je l'ai tenue parfois avec beaucoup de mauvaise humeur contre les gens qui me disaient « Ah, les mathématiciens, vous vous occupez que des mathématiciens. » Et je répondais « Bah, il vaut mieux qu'on s'occupe de quelqu'un que de personne, comme tu es en train de le faire. » Bon, voilà. Et en effet, ça a marché. On s'est occupé d'un mathématicien.
Alors, Pliouch, c'était qui ?
Pliouch, c'était un jeune cybernéticien, comme on disait à l'époque, d'Ukraine, de Kiev, qui était tout à fait à gauche. Il avait une opposition, il était une espèce d'opposition de gauche au régime de Brejnev à l'époque, ce qui était quand même relativement rare. Il avait beaucoup soutenu les manifestations contre l'invasion de la Tchécoslovaquie, etc. Et il était très têtu et très courageux. Il était marié à une femme extraordinaire qui s'appelait Tania Pliouch. Les femmes, c'est l'occasion de le souligner, parce que la femme de Maurice Audin, qui est morte il n'y a pas très longtemps, a joué un rôle de tout premier plan dans la campagne de Maurice Audin. Les femmes sont en général les gens sur qui repose ce genre de campagne. Dans le cas de Pliouch, ça a été le cas aussi, Tania Pliouch. Elle est morte il n'y a pas si longtemps non plus. On a été saisi du cas de Pliouch par Lippmann Berz. Alors, Lippmann Berz était un mathématicien américain d'origine, je ne sais plus, un des pays du nord de l'Europe de l'Est, mais membre de l'Académie américaine. Et il a écrit à Schwartz en lui disant « Bon, vous vous occupez de Chiranovitch, mais faites attention, il y a un cas beaucoup plus dramatique qui est celui de Plouche. » Et ils ont été saisis du cas de Plouche. Et c'est Liebenberg qui a dit « On devrait fonder un comité des mathématiciens. » Alors, Plouche avait été arrêté, et comme Brejnev le faisait à l'époque, il avait été mis non pas en prison, mais en ce qu'on appelait un hôpital psychiatrique spécial. Et dans cet hôpital psychiatrique spécial, où on internait beaucoup des opposants, on les accusait, enfin, on les diagnostiquait, mais c'est plutôt une accusation qu'un diagnostic, d'être de schizophrénie torpide. C'est la traduction française du mot russe. Et schizophrénie torpide, c'était le fait de s'opposer au régime soviétique, au régime post-salinien. Voilà. Et la schizophrénie torpide justifiait, expliquait qu'on leur donne des traitements terribles. Ils étaient sous neuroleptiques à haute dose, ils étaient dans un sale état, hein, et pendant des années. Et évidemment, il n'y a pas de condamnation, puisqu'ils étaient internés comme malades, comme cinglés. Ils n'étaient pas internés pour raison politique et suite à un jugement tribunal. Donc, il était dans un hôpital psychiatrique spécial à Dnipropetrovsk.
Lui était au courant que vous avez monté ce comité pour le soutenir ?
Il l'a été, mais il n'était pas très en état d'être très au courant et très conscient. C'est sa femme qui l'a été. Alors, on avait un contact tout à fait particulier avec l'URSS, qui était une psychologue française qui s'appelait, malheureusement j'en parle au passé parce qu'elle est morte, Tania Maton. Tania Maton était une juive russe qui, petite, était amie d'enfance de la femme de Sakharov, de l'académicien Sakharov. Et elle arrivait à téléphoner de temps en temps à Sakharov ou à sa femme. Et par Sakharov et sa femme, et Sakharov jouissait, je ne devrais pas dire d'une certaine liberté, mais enfin d'un peu plus d'autonomie que les autres opposants, par Sakharov, c'est essentiellement par Sakharov qu'on avait des nouvelles de Plouche. Donc Tania Maton nous donnait des nouvelles et nous on agit. Et elle faisait passer des nouvelles.
Concrètement, votre action, c'était quoi ?
Notre action, elle n'a pas été linéaire. Enfin, elle était linéaire si on veut, mais elle était croissante. C'est-à-dire qu'elle a commencé par informer les mathématiciens, ensuite par constituer, comme nous l'avait suggéré Liebenberg, un comité des mathématiciens qui a d'abord fonctionné en France avec une trentaine de correspondants dans des universités de province. Puis on a étendu en étendant à des correspondants dans des pays. On a eu au moins 20 ou 25 pays où il y avait des correspondants. Puis on a édité un bulletin du comité. Je tournais la Renault dans mon garage à l'époque, pour éditer ce bulletin du comité. On demandait des sous à l'issue de chaque séminaire pour Paki. On a écrit des lettres à l'ambassade, mais pas à Brejnev. Notre contact, et c'est heureux, c'est pour ça qu'on a fini par gagner, si je puis dire, c'est que le régime de Brejnev, de l'époque, avait un représentant institutionnel en France. C'était le Parti communiste français, tout simplement, qui était le plus brejnevien, le plus... ma formation me mène à dire stalinien de l'époque. Et donc, on a beaucoup discuté. C'était dur, hein, avec les collègues membres du PC à l'époque, c'était dur. Ils nous expliquaient que Plouche était d'extrême droite. Pas vrai, il était tout à fait un opposant de gauche. Il était dans la lignée de ceux qui avaient écrit sur les murs de Prague en 68 « Lénine, réveille-toi, Brejnev est devenu fou ». Il était ça, Plouche. Enfin bon, bref. Mais ça a marché, c'est-à-dire que les collègues communistes ont été convaincus. Ils avaient les documents, on leur donnait les documents, on leur donnait les écrits. Ils voyaient qu'ils s'occupaient, ils voyaient que la droite n'était pas, comme d'habitude, n'était pas du tout impliquée dans cette campagne. Alors quand je dis la droite, ça ne concerne pas les matheux, parce que les matheux, ils n'étaient pas politisés. Il n'y avait pas les matheux de droite et les matheux de gauche. Le problème ne se posait pas. On travaillait pour libérer un homme injustement condamné et odieusement traité, point barre. Je continue ma description de la croissance de la campagne. Une fois que l'ensemble du comité, de la communauté mathématique a été mobilisée, on est arrivé sur le congrès international qui se tenait à Vancouver en 1974. Et Cartan et moi, je suis désolé d'avoir l'air immodeste, mais enfin, c'est comme ça, ça s'est passé comme ça. Cartan et moi avons décidé d'y aller. Schwartz ne voulait pas y aller, c'était trop long, Vancouver. Mais on est allé au congrès, ni Cartan ni moi n'étions invités. Et on est allé au congrès de Vancouver pour faire connaître le cas Plouche. Et on a fait unique dans les annales, je crois, du congrès international. On a distribué les tracts et organisé une réunion publique dans le cadre du congrès avec l'accord des organisateurs du congrès. Et cette réunion publique a été présidée par Liebenberg, précisément, celui qui avait eu l'idée de... Et Cartan y a pris la parole. Voilà. Donc ça a été le point d'orgue de la mobilisation des mathématiciens. Et j'ai eu la surprise, il n'y a pas si longtemps, d'avoir la visite d'une collègue de l'université Paris Cité, puisque c'est comme ça qu'elle s'appelle, l'université ex-Paris 7, qui est spécialiste des rapports avec l'URSS, et qui est venue me raconter ce qu'elle avait trouvé dans les archives des gouvernements brejneviens. Et il avait été largement question autour de Brejnev de cette pagaille que nous avions foutue. Enfin, pas pagaille, non, je ne devrais pas dire ça. De cette agitation constructive que nous avions eue au Congrès international. Moi, je croyais que ça ne servait à rien, que les autorités soviétiques se foutaient de ça. Et je pense qu'ils étaient au courant, y compris par les cadres mathématiciens qui étaient au Parti communiste, par exemple Kahan.
Jean-Pierre Kahan est un mathématicien né en 1926 et mort en 2017. Son œuvre couvre beaucoup de branches de l'analyse mathématique, analyse harmonique, fonction holomorphe, traitement du signal. Il ne fut pas membre du groupe Bourbaki, élu à l'Académie des sciences en 1998.
Je parlais peu avec lui, à vrai dire. Schwarz parlait, mais c'était un peu difficile. Mais on le tenait au courant, il savait. Il n'y avait pas que Kahan, hein, il y en avait d'autres. Alors ils ont eu des attitudes différentes. Au début, ils étaient extrêmement réticents. Mais il est incontestable que c'est par des gens comme lui et l'autre qu'est passée l'information que l'affaire Plutsch était une affaire sérieuse. Et que le comité, et que les mathématiciens, la communauté mathématique internationale étaient vraiment mobilisés, comme on l'avait vu au Congrès international de Vancouver. Mais ça ne suffisait pas. Donc on a décidé de monter d'un cran. Et on a mobilisé la Fédération internationale des droits de l'homme, Amnesty International, les syndicats, on a fait des conférences de presse, on a demandé à des collègues étrangers de faire de même. Ça a monté d'un cran politiquement. Et ça n'a pas suffi. Et là, on est en 75. Et là, j'étais trotskiste à l'époque, et en effet, trotskiste lambertiste, comme on dit aujourd'hui. Et je me rappelle très bien, le parti lambertiste se foutait complètement de ce que je faisais. Me laisser faire, mais je ne faisais que ça dans mes activités, mais ils s'en foutaient. Ils s'en foutaient, c'est peut-être trop dur, mais ils s'en laissaient faire, quoi. Voilà. Et là, je me rappelle très bien avoir été invité par Lambert. « Petit père, viens me voir. » Il faut que tu organises un meeting à la mutualité. Mais je dis, mais j'en ai pas les moyens. Nous ne sommes que des mathématiciens. On va pas remplir la salle de. Je te dis, il faut que tu organises. Bon, je connaissais un peu Lambert, il allait s'y mettre lui aussi. Et donc, on a organisé un meeting à la mutualité en octobre 75, qui a été un truc inouï. C'était peut-être le summum de ce qu'on a connu de la mobilisation internationale contre le stalinisme. Meeting dans lequel, bien sûr, le parti lambertiste a joué un rôle crucial, mais pas que. Hein. La salle était bourrée, débordée. Ça s'appelait Meeting pour la libération de Plutsch. Deux jours après le meeting, l'Humanité a publié un article, c'était la première fois, où il disait, bon, ils sont soutenus par la droite, ils sont soutenus par l'extrême droite, mais quand même, s'il y a quelque chose de vrai dans l'affaire Plutsch, alors il faut faire attention. C'était la première fois que l'Humanité reconnaissait, et on a compris que là, on est en train de gagner. Et là, ils ont tourné. Là, ils ont tourné. C'était en particulier grâce au discours du représentant de la FEN, mon ami Louis Astre, qui est mort il n'y a pas si longtemps, qui avait fait un discours sur le thème « Il y a des absents ici. Ils devraient être là, la CGT et le PC. Ils devraient être là. C'est ça la gauche. » Il avait été beaucoup applaudi, ça avait marqué des points. Et de cet article dans l'Humanité qui était signé de René Andrieux, a beaucoup tenu compte de ça, oui. Donc on a compris qu'on avait gagné et que ce n'était qu'une question de mois. Et ça a été en effet une question de mois. Le meeting a eu lieu le 23 octobre. Et Plutsch a dû être libéré le 8 janvier, on l'a su quelques jours avant. Nous, c'est toujours Cartan, Schwarz et moi, avons décidé que j'irai l'accueillir à la frontière et que je le ramènerai en France. Bon, ça n'a pas été de tout repos. Lui, on l'a sorti de son hôpital, on l'a mis sous une lampe à bronzer quelques heures, on l'a un peu nourri de force et puis on l'a fichu dans le train où il ne savait pas où il allait, hein, où il a retrouvé sa famille et ils ont débarqué au petit matin dans la petite gare de Marček, à la frontière tchéco-slovaque-autriche, je crois. Et voilà, et j'étais là pour l'accueillir. Il était complètement bouffi de ses traitements par neurologue, complètement bouffi. Donc il nous a dit qu'il ne voulait pas parler, qu'il voulait se refaire d'abord avant de parler. Il nous a dit aussi, en nous regardant avec un air de défi dans les yeux, qu'il sortait de mains de bandits et qu'il n'avait pas l'intention d'arriver chez d'autres bandits. Et qu'il respectait beaucoup Trotsky, il nous a dit à l'époque. Je ne l'ai pas répété parce que Lambert m'a dit « Ne le répète pas, tu ne pourras pas tenir cette position, il ne pourra pas tenir cette position, tais-toi. » Donc je ne l'ai pas répété. Et puis voilà, et puis grâce à l'intervention du même Louis Astre, j'ai obtenu un samedi que le consulat de France s'ouvre et nous file des papiers parfaitement exceptionnels pour qu'on aille en France. Il n'avait que des visas pour Israël. À l'époque, c'est ça. Quand l'URSS se foutait à la porte des dissidents, il leur donnait des visas pour Israël, même si ce n'était pas juif. C'est comme ça. Bon, Schwartz, Cartan et moi avions décidé qu'ils logeraient chez moi, puisque c'était le plus commode. J'avais une maison de banlieue à Montreux. Bon, ça a été un peu difficile, hein. Moi, j'ai couché, moi et ma femme avons couché sur un matelas pneumatique pendant un mois. Bon, dans mon bureau. Mais enfin, bon, avec des gens qui nous persécutaient, des journalistes qui venaient, c'était infernal. Mais enfin, voilà, jusqu'à ce que Plouch accepte de donner une conférence de presse qu'il a donnée, je ne sais plus, début février, je crois. Il y avait là toute la presse internationale. Il va y avoir un documentaire est en préparation des années après, puisque tout ça se passait en 76, donc ça fait très très longtemps. Il va y avoir un documentaire tourné pour une chaîne de télévision qui racontera tout ça.
Et alors maintenant, il est où ?
Il est mort. Il est mort d'un cancer ultra rapide. Il est mort en 2015, je crois, et sa femme est morte il y a 2 ans. Et voilà, et j'ai marché dans les rues de Paris avec leur petite fille Julie contre l'agression russe contre l'Ukraine. Voilà.
Au début, tu nous as dit que l'idée initiale, c'est de dire on va se concentrer sur un bonhomme pour présenter un problème beaucoup plus global. Est-ce que ça a marché ?
Ah, moi, je pense, mais je vais me couvrir de l'autorité de Schwartz, qui, dans ses mémoires, écrit que nous avons ébranlé le stalinisme. Il ne dit pas « nous avons fait libérer Plouch », ce qui était vrai. Il dit « nous avons ébranlé le stalinisme ». Donc, bon, lui pensait, et je pense qu'il a raison, ça a eu un retentissement mondial. À l'époque, on l'a complètement oublié maintenant, puisqu'encore une fois, c'était en 76. Mais moi, je me rappelle cette conférence de presse au premier étage, dans une grande salle de la Mutualité, où toute la presse américaine était là, où John Baez avait traversé l'Atlantique. Elle était, d'ailleurs, John Baez nous a emmenés, Plouch et moi, dans sa chambre d'hôtel pour nous chanter des chansons pendant au moins 1 heure. C'est mes souvenirs extraordinaires. C'est quand même notable que le livre de Schwartz se termine, c'est la fin du livre de Schwartz, hein. Les activités économiques du mathématicien, je crois pouvoir conclure que c'est une expérience assez unique dans l'histoire. Pour des causes relatives aux droits de l'homme, la communauté internationale des mathématiciens s'est mobilisée, s'est adressée à de puissants chefs d'État et a toujours fini, après un long travail, par obtenir la libération qu'elle demandait. Parce qu'il y a eu plein de cas après, bien sûr, on était... Les journaux du monde entier ont relaté les activités de ce comité. Tout cela est probablement même le nom de notre comité est oublié à présent. Les jeunes générations de mathématiciens connaissent sans doute très peu cette histoire. Je crois qu'elle valait la peine d'être racontée pour empêcher qu'elle ne tombe dans l'oubli. Pourquoi les mathématiciens sont-ils spécialement mobilisés ainsi pour des causes très diverses ? Il y avait depuis longtemps des antécédents, par exemple celui d'affaire des visas pour le Congrès international de 1950 ou des combats antérieurs pour une déontologie universitaire. Les mathématiciens transportent leur rigueur de raisonnement scientifique dans la vie courante. La découverte mathématique est subversive et toujours prête à renverser les tabous et dépend très peu des pouvoirs établis. Beaucoup ont aujourd'hui tendance à considérer les scientifiques, mathématiciens ou non, comme des gens peu soucieux de morale, nuisibles, enfermés dans leur tour d'ivoire, indifférents au monde extérieur. Le comité des mathématiciens est une brillante illustration du contraire. C'est le dernier paragraphe du livre.
Je mets souvent de la musique dans le podcast, mais tu m'as vendu la mèche. Ce sera John Baez.
Oui, bien sûr. Ah. Bien sûr. On a eu peut-être 5 chansons, c'était fantastique. C'était fantastique. On était tous les trois, hein. Moi et elle.
Bah écoute, merci beaucoup Michel.
Petite histoire de science. Avec Étienne Gis. Le podcast de l'Académie des sciences. Canal Académie.